billets d'Europe, la chronique européenne animée par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, centre d'information Europe Direct Limousin. Il y a 3 mois, les Européens ont élu leurs députés pour 5 ans. Dans une chronique de juin, vous avez analysé les résultats et la composition du Parlement européen qui en découle. Que s'est-il passé pour le Parlement depuis son élection, Daniel ?
Alors, le Parlement européen s'est réuni en séance plénière inaugurale à Strasbourg le 2 juillet. Alors, pas tout à fait au complet, puisque les 3 députés indépendantistes catalans sont empêchés de siéger par la loi espagnole. Cette séance a été courte, ce qui n'a pas empêché les manifestations d'humeur, notamment des Britanniques. Les élus de Farage ont tourné le dos lors de l'hymne, et les opposants au Brexit ont arboré des t-shirts frappés de « Stop Brexit ». Bon. Au cours de cette séance, les observateurs ont découvert une assemblée au profil un peu différent de la précédente, plus fortement renouvelée, avec près de 60% de nouveaux députés, plus féminine, avec près de 47% d'eurodéputés E, et comportant un nombre élevé de non-inscrits, 57, en raison de la disparition d'un groupe politique eurosceptique, Europe de la liberté et de la démocratie directe, qui était constitué des députés du UKIP de Farage et du mouvement 5 étoiles italien. Or, ces changements sont mineurs, certes, mais ils peuvent modifier l'ambiance.
Alors Daniel, je présume que l'ouverture de la législature ne s'est pas limitée à une présentation.
En effet, les 3 jours de cette session constitutive ont permis la désignation pour 2 années et demie des responsables aux postes clés de l'institution parlementaire, à savoir la présidence, les vice-présidences, les quêtures et les commissions avec leurs présidents et leurs vice-présidents ou présidentes. Pour la présidence du Parlement européen, un Italien remplace un autre Italien. En effet, David Maria Sassoli, européen eurodéputé socialiste depuis 2009 et vice-président sortant, a été élu sans difficulté en l'absence de candidats du PPE et des centristes de Renew Europe. Les 14 vice-présidents sont allés à tous les groupes politiques, à l'exception du groupe Identité et Démocratie de Salvini-Le Pen. Notons que la parité n'est pas totalement réalisée puisque seuls 5 vice-présidences reviennent à des femmes. Alors, s'agissant maintenant des commissions parlementaires et de 2 sous-commissions permanentes, dont le rôle est déterminant dans le travail législatif du Parlement, les débats ont été rudes en raison des prétentions de l'ensemble des groupes. Au final, on note une double inégalité dans la répartition. D'une part, une domination des États membres occidentaux avec une prépondérance maintenue de l'Allemagne, 5 présidences et 12 vice-présidences, un regain français avec 4 présidences et 6 vice-présidences, doublé d'un recul marqué des États membres d'Europe centrale et orientale. Ainsi, la Pologne perd ses 4 présidences, la Bulgarie, la Lituanie et la République tchèque abandonnent la leur. Deuxième inégalité, une incomplète prise en compte des résultats. Ainsi, le PPE, bien qu'en baisse, conserve 8 présidences, quand les socialistes n'en gardent que 5 sur 7, au profit des centristes et des Verts. L'extrême gauche obtient 1 présidence et les eurosceptiques de l'ECR 2 présidences. Mais les prétentions des europhobes d'idées, donc identité et démocratie, à occuper la présidence des commissions agriculture et affaires juridiques sont ignorées, sont balayées et aucune vice-présidence ne leur est accordée en dépit de leur poids numérique. À l'évidence, les députés dans le choix des responsables ont établi ce qu'on appelle un cordon sanitaire.
Alors la mise en place du Parlement européen n'a guère mobilisé la presse, à la différence du vote en faveur d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne. Que faut-il penser de cette validation ?
Alors le 16 juillet, lors de la 2e séance plénière, le climat est en effet devenu électrique pour la validation de la présidence de la Commission européenne. Arguant du traité de Lisbonne et du précédent de 2014, les groupes politiques les plus importants, PPE, socialistes, verts, entendaient faire respecter par le Conseil européen le principe du Spitzenkandidat, tête de liste, chef de file, au contraire du groupe centriste en appui du Conseil européen et notamment du président français. L'échec des tractations entre les partis pour désigner un candidat commun et élaborer une plateforme programmatique a scellé le sort des Spitzenkandidaten Manfred Weber et Frans Timmermans au profit d'une personnalité plutôt improbable désignée par le Conseil européen, la ministre de la Défense allemande Ursula von der Leyen. Si les eurodéputés ont finalement validé cette nomination, ils l'ont fait sans enthousiasme, comme le prouve le maigre score obtenu de 383 voix sur 747, soit 9 voix de majorité. Pour de nombreux députés, l'épisode marque un recul de l'influence politique du Parlement européen et un rappel douloureux des limites de son pouvoir. Il n'est pas certain que ces députés se résigneront et que l'offre de dialogue permanent faite par la nouvelle présidente, on va le dire, dans son discours de présentation suffise. Le grand oral, que chacun ou chacune des candidats, candidates, commissaires va passer devant les parlementaires du 30 septembre au 8 octobre, avant l'approbation collective du collège entre le 21 et le 24 octobre, s'annonce redoutable. Entre-temps, dès la mi-septembre, le Parlement aura entamé le travail législatif. Pour la suite, la composition du Parlement telle que nous l'avons analysée en juin, avec la fin du duopole PPE-socialiste, rendant indispensable l'appui des libéraux avec les Verts, et avec, deuxième phénomène, la poussée souverainiste, notamment d'extrême droite, eh bien tout cela, ça risque de tendre les rapports avec le Conseil européen, considéré par certains comme Spitzenkandidaticide. La neuvième législature qui démarre pose donc d'emblée un enjeu fort pour le Parlement, se faire entendre d'une commission qui va s'installer avec le soutien des États membres. À vrai dire, ce combat parlementaire n'est pas si nouveau que cela, mais par rapport à 2014, dans ce jeu à trois, il est évident que le Parlement a perdu une carte qu'il pensait maîtresse.